accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Pour les Kurdes de Turquie, c'est un symbole très fort. Pour la première fois, une école en langue kurde a ouvert ses portes dans la ville de Diyarbakır, dans le sud-est du pays, une région à majorité kurde. Une école, mais une école privée. Là est toute la subtilité. La bataille n'a pas été facile pour maintenir les portes de l'établissement ouvert et le gouvernement Erdogan refuse toujours de franchir la ligne rouge, à savoir l'autorisation d'écoles publiques en kurde. Alors qu'Ankara cherche à faire la paix avec l'organisation armée du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, cette école est un défi pour les deux parties. Anand Lauer s'est rendu dans une de ces classes où l'on fait cours en kurde, c'est à Diyarbakır.
Voilà bien un son inédit. Une école primaire en Turquie où les enfants et leurs maîtresses récitent ensemble l'alphabet kurde. Des mots kurdes s'affichent partout, des salles de classe à la cantine, du fronton de l'établissement au manuel des écoliers. Nous sommes à l'école Ferzat Kemanger de Diyarbakır et Julide Karademir, qui articule la lettre E face à 20 élèves de 6 ans, se souvient de sa propre école il y a de cela 30 ans.
Ni ma mère ni mon père ne parlaient le turc. On parlait seulement kurde à la maison. J'ai appris le turc à l'école. L'instituteur nous interdisait même de chuchoter en kurde dans la cour de récré. Il chargeait un élève de nous dénoncer. Mes élèves ont beaucoup de chance. Ils découvrent l'école dans la langue qu'ils entendent à la maison, celle des berceuses de leur mère. Ils ne se sentent pas étrangers ni différents.
L'enseignante se réjouit et en même temps elle est inquiète. Car cette école primaire en kurde a ouvert le 15 septembre sans que l'État soit au courant et sans son autorisation. Un syndicat, Itimsen, et une association kurditaire en sont à l'origine. Ils demandent à l'État ce qu'il n'a jamais accepté, une éducation publique, gratuite, dans une autre langue que le turc, la seule langue officielle. Yıldırım Arslan, vice-président local du syndicat d'enseignants Eğitimsen, justifie ce choix du fait accompli.
Nous n'avons pas fait de démarches officielles car les lois actuelles ne répondent pas à nos demandes. Que ce soit la charte européenne de l'autonomie locale, la convention internationale des droits de l'enfant, dès qu'il est question d'éducation en langue maternelle, la Turquie refuse d'appliquer les textes. En 2014, c'est inacceptable et cela nous oblige à agir de facto.
Le jour de la rentrée, la police est venue sceller les grilles de cette école prêtée par la mairie. Les scellés ont été brisés, puis à nouveau posés, puis à nouveau brisés, jusqu'à ce que l'association kurdidaire dépose en préfecture un épais dossier officiel. Entre-temps, les 113 élèves inscrits avaient retrouvé leur salle de classe et ont reçu la visite fin septembre d'inspecteurs du ministère de l'Éducation. Leurs conclusions n'ont pas tardé. L'école Ferzat Kemanger n'a le droit de fonctionner qu'en tant qu'école privée. Les fondateurs refusent, la situation semble sans issue. Abdurrahman Baker, membre de Kurdider, pense pourtant que cette école est l'occasion, pour l'État turc et la société, de surmonter leurs peurs et d'autoriser l'instruction publique en langue maternelle.
Ce n'est pas parce que des enfants kurdes reçoivent un enseignement dans leur langue que la Turquie va se désintégrer. Quel pays européen reconnaissant ce droit s'est ensuite divisé? Aucun. Avec cette école, nous voulons prouver qu'il n'y a rien à craindre et qu'au contraire, l'unité nationale n'en sera que renforcée. Il ne nous viendrait pas non plus à l'esprit de refuser le turc, ce serait absurde. Nous demandons simplement à l'État d'entendre cette demande légitime de la société kurde.
Cet enseignant à la retraite reconnaît que la Turquie a changé. Ces 6 dernières années, les 15 à 20 millions de Kurdes ont obtenu de l'État une chaîne de télé dans leur langue majoritaire, le cours Manjö, des cours optionnels de Kurdes dans toutes les écoles, le droit d'utiliser les lettres de leur alphabet, de faire campagne dans leur langue, et depuis cet été donc, d'ouvrir des écoles privées dans d'autres langues que le turc. Mais pour Abdurrahman Baker, tout cela ne suffit pas. Et suffit d'autant moins que depuis plus de 2 ans, le gouvernement mène des pourparlers de paix avec le chef emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, après 30 ans de guerre et des dizaines de milliers de morts.
Puisque le gouvernement s'engage pour la paix, qu'il le prouve, qu'il autorise cette école et d'autres. Jamais nous n'aurions osé fonder cette école il y a 10 ans. Depuis, il y a eu de petites avancées, donc nous gardons espoir. Espoir pour les Turcs, les Kurdes, mais aussi pour tous les autres peuples qui vivent dans ce pays.
Bon an, mal an, le processus tient bon. Un cessez-le-feu est toujours en vigueur et le gouvernement a donné cet été un cadre juridique au pourparler de paix. Vahap Jushkun, professeur à la faculté de droit de l'université Dijle de Diyarbakır, veut croire en l'avenir du processus et donc de l'école kurde.
Le processus repose sur deux piliers. Le gouvernement parviendra-t-il à désarmer le PKK et à l'intégrer dans le jeu politique? Et donnera-t-il aux Kurdes les droits qu'ils demandent? L'éducation en langue maternelle est primordiale pour ce processus, car elle est réclamée par tous les Kurdes de Turquie, quelle que soit leur sensibilité politique, qui peuvent être très différentes.
À l'école de Diyarbakır et dans deux écoles similaires fondées ces dernières semaines, élèves et enseignants sont donc dans l'attente d'une avancée du processus. Ils espèrent être des pionniers et continuer de faire retentir leur sonnerie en kurde. Un air enjoué où résonnent ces mots « Quelle est douce, quelle est belle, ma langue maternelle ».
Un reportage signé Anne Andlauer. Money is the most beautiful. La rumeur a fait grand bruit selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Le rapport demandé par Berlin et Paris à deux économistes de renom, Jean Pisani-Ferry et Henrik Enderlein, préconiserait le blocage des salaires en France pendant 3 ans. Les Français qui réduisent déjà leur train de vie du fait de la crise verraient ainsi leur pouvoir d'achat plongé. Mais ces Français sont-ils vraiment à plaindre? Selon les chiffres d'Eurostat et de l'Institut GFK, ils disposent en fait d'un pouvoir d'achat relativement élevé comparé à celui de leurs voisins européens. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron, directeur du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Le pouvoir d'achat des Européens est-il, comme la croissance en Europe, en berne?
Il y a en effet une forte corrélation entre la croissance et le pouvoir d'achat qui, rappelons-le, est le revenu disponible après impôt pour consommer, épargner ou investir. Dans sa dernière étude annuelle, l'Institut allemand GFK compare les évolutions de pouvoir d'achat entre pays du continent européen. Il le fait en prenant le revenu disponible corrigé de l'inflation. Eh bien, il en ressort que pour l'ensemble de l'Europe, l'augmentation du pouvoir d'achat en 2014 sera de 1% pour une croissance estimée par Eurostat à 1,6%. Quant au classement par pays, il fait ressortir sans grosse surprise, à vrai dire, que la principauté du Liechtenstein reste, et de loin, le pays où les habitants peuvent dépenser sans compter, puisqu'ils disposent de près de 55 000 euros par an et par personne. Quant aux Danois, ils sont ceux qui voient leur pouvoir d'achat progresser le plus par rapport à l'année dernière. Ils sont ainsi passés de la 7e place à la 5e du top 10 des pays européens pour le pouvoir d'achat, avec 22 000 euros de revenus disponibles.
Et quels sont les autres pays de ce top 10 ?
Après les habitants du Liechtenstein, il y a les Suisses avec 37 000 euros, les Norvégiens avec 30 600 euros et les Luxembourgeois, premier pays de l'Union européenne, avec 28 850 euros. Viennent ensuite les Autrichiens, les Allemands et les Suédois qui ont un pouvoir d'achat de l'ordre de 21 500 euros. 9e de ce classement, les Français ne sont pas loin, avec 19 650 euros. Ils devancent d'une courte tête les Finlandais. Par rapport à l'an dernier, ce pouvoir d'achat des Français est en hausse de 0,4%.
Mais en France, il y a de fortes disparités selon les régions. Alors où sont les Français les mieux lotis ?
En fait, les disparités entre les régions ou même les villes françaises sont encore plus importantes qu'entre les pays. Ainsi, les Parisiens, et pas seulement ceux des quartiers les plus aisés, les Parisiens dans leur ensemble, ont un pouvoir d'achat moyen supérieur à celui des riches luxembourgeois, avec près de 31 000 euros disponibles pour faire leurs courses ou épargner. Au niveau des régions, l'Île-de-France est sans surprise en tête, devant Rhône-Alpes et PACA, puis l'Alsace, le Centre et l'Aquitaine, la Bourgogne et Midi-Pyrénées. La Corse et le Nord-Pas-de-Calais sont les bonnes dernières du classement.
Mais le pouvoir d'achat ne se mesure pas qu'aux revenus disponibles, il dépend également du niveau des prix et de leur structure. Expliquez-nous.
Oui, certes, et notamment pour les postes de dépenses qui pèsent le plus lourd dans les dépenses des ménages, comme l'immobilier. Ainsi, il ressort des récents calculs d'un site internet spécialisé dans le crédit immobilier que sur les 10 plus grandes métropoles françaises, Marseille est la ville où le pouvoir d'achat immobilier est le plus important du fait de la baisse justement des prix de l'immobilier.
Et au-delà de l'immobilier, le coût global de la vie crée-t-il des surprises ailleurs en Europe ?
Oui, pour comparer le pouvoir d'achat des régions européennes, l'Institut Eurostat tient compte du niveau des prix relatifs dans chacune de ces régions. C'est ce que les statisticiens appellent la méthode des parités de pouvoir d'achat. Selon cette méthode, Eurostat constate sans surprise que le Grand Londres vient en tête du classement, suivi de Luxembourg. Mais l'Île-de-France ne vient qu'en cinquième position et elle est devancée par des régions comme Bruxelles-Capitale ou Hambourg. Dans ces métropoles, la richesse globale par tête est bien sûr inférieure à celle de Paris en termes nominaux. Mais c'est la pondération par le niveau des prix qui fait la différence. En clair, à revenu égal et même inférieur, vous achetez plus de biens, plus de logements, plus de services à Bruxelles ou Hambourg qu'à Paris. Bref, vous vivez mieux, en tout cas sur un plan matériel. C'est la raison pour laquelle, ce qui paraît plus étonnant encore, des villes comme Prague ou Bratislava, Devance, Vienne ou Stockholm en termes de pouvoir d'achat.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Il y a 7 ans, les images sur les conditions de vie déplorables des enfants placés en orphelinat avaient créé le scandale en Bulgarie. Aujourd'hui, les mornes bâtisses d'un autre âge ont changé et devraient être remplacées par des structures plus petites et plus humaines. Mais surtout, le pays veut privilégier plus que tout l'adoption sur le placement en institution. Non sans mal, 2000 bébés, surtout d'origine rome, sont encore abandonnés tous les ans dans le pays. Sofia, Damien Vodenicharov est allé visiter ces orphelinats qui essaient de faire mieux à défaut de faire très bien.
C'est le plus ancien orphelinat des Balkans, officiellement dénommé le foyer pour enfants privés de soins parentaux Petko Slavejkov. Fondé en 1891, il était complètement délabré il y a encore quelques années de cela. La direction nous fait visiter les lieux. Les longs couloirs sont presque vides. Les enfants sont à l'école. Nadia Djunova, la directrice de l'établissement, fait le tour des espaces communs. Les couloirs ont été repeints en couleurs chaudes, du brun, de l'orange, du rouge. Les dortoirs sont en fait des petites chambres occupées par un ou deux enfants. Les murs sont décorés de posters et de photos. Le personnel tente de respecter l'espace privé des enfants et de leur donner le sens des responsabilités, explique Nadia Djunova.
Alors voilà, ici c'est la salle de séjour. Ils font le ménage tout seuls, il n'y a pas de femme de ménage. Ils font la lessive, ils se débrouillent. C'est toute l'idée.
Depuis la réforme du système de soins lancée en 2010, les orphelinats ont pour consigne d'être plus humains. Les vieux foyers tels que Petko Slavejkov seront fermés d'ici 2025. Le système obsolète devra alors faire place aux familles d'accueil et aux parents adoptifs qui prendront le relais. Ils seront assistés par des centres de consultation et de soins spécialisés. Les résultats de cette politique se font déjà sentir. Plus de 7200 enfants résidaient dans les orphelinats en 2008. À la fin 2013, ils étaient 3600. Deux tiers d'entre eux ont entre 7 et 18 ans. Désormais, les orphelinats doivent chercher à faire adopter ces enfants. Au foyer Petko Slavejkov, le nombre de résidents a chuté de 41% en 5 ans. Nadia Djunova.
Nous avons du succès avec les adoptions. Nous en avons 8 cette année et nous attendons la 9e en décembre. Un seul enfant a été placé dans une famille d'accueil. La vérité, c'est que les couples adoptants préfèrent prendre soin des plus petits. Les familles s'imaginent sûrement qu'ils sont plus calmes, qu'il y aura moins de problèmes avec eux.
C'est un paradoxe de cette réforme. Désormais, les autorités se préoccupent surtout du sort des plus petits, alors que les plus grands passent en arrière-plan. Maria Blagoeva l'a éprouvé. Pour devenir parent d'accueil, elle a arrêté sans regret sa carrière d'ingénieur il y a 6 ans. Depuis, elle a pris soin de 3 enfants. Maria préfère prendre en charge les plus grands qui sont oubliés par le système.
Malheureusement, ces enfants restent dans les foyers parce qu'ils ne sont pas prioritaires comme les tout-petits pour être placés. Et les familles considèrent qu'ils sont trop grands pour l'adoption. Ces enfants n'ont pas d'avenir. Par exemple, les frères d'un enfant placé chez moi vont très mal. L'un d'entre eux a une cicatrice énorme sur la joue. L'autre ne cesse de répéter qu'il veut se suicider en se jetant par la fenêtre.
Les nouveau-nés et les bébés ont la priorité sur les listes d'adoption, de placement en famille d'accueil. Plus de 80% des enfants délaissés en 2013 ont moins d'un an. 90% sont issus de la minorité rom. Ces chiffres alarmants en font le groupe le plus vulnérable, même si ce n'est pas le plus nombreux, explique Milena Arizanova de l'UNICEF.
Ce sont surtout les enfants handicapés qui sont privés de leurs droits. Dans l'absolu, il y a moins d'enfants dans les foyers, mais il y a de plus en plus d'enfants handicapés placés dans des centres. Ils ont moins de chances de trouver une famille d'accueil et restent donc dans les institutions.
À ces problèmes complexes viennent s'ajouter d'autres difficultés. La prévention de l'abandon des enfants et le travail sur le terrain auprès des groupes à risque est peu développé. Les familles d'accueil n'ont pas d'autorité parentale sur les enfants abandonnés, ce qui rend très difficile leur suivi médical. Et malgré ces difficultés, il ne fait aucun doute que les choses sont en train de changer. Pour s'en rendre compte, nous nous sommes rendus dans ce qu'on appelle un centre familial. Rien à voir avec les grands orphelinats d'antan. Ce centre est un petit pavillon de 2 étages dans une banlieue de Sofia. La mairie de la capitale a délégué sa gestion à une ONG. La philosophie ici est très différente, au dire de Petromir Kanchev, directeur de l'organisation.
Chaque enfant ici a son assistant personnel qui s'occupe de lui. C'est pour cette raison que nous n'avons que 6 enfants dans ce centre. L'objectif est qu'ils soient placés dans des familles d'accueil ou qu'ils soient adoptés. Nous ne sommes que le lien entre l'enfant et sa famille. Nous ne voulons en aucun cas que les enfants restent trop longtemps ici.
Changer les choses prendra encore du temps en Bulgarie, notamment sur le terrain de la prévention. Il arrive encore trop souvent que des femmes enceintes ne consultent un médecin que quelques jours avant d'accoucher, ou que ces mêmes médecins leur conseillent d'abandonner leur bébé handicapé.
27-year-old female infected with unknown pathogen. Blood analysis indicates virus. Provisional name is X12.
La mauvaise publicité est-elle encore de la publicité? Le créateur britannique d'un jeu pour smartphone en fait l'expérience. Son application, Plague INC, a 35 millions d'adeptes et le principe tient en quelques mots, tuer la planète à coups de virus. Un concept qui passe très mal en pleine épidémie Ebola. La société éditrice a dû donc consentir à quelques aménagements pour un jeu très peu politiquement correct à Londres. Marie Billon.
C'est toujours la même histoire. On inocule un virus à un patient zéro, mais bien sûr, il ne le sait pas. Alors, il infecte toutes les personnes qu'il rencontre. Et lorsqu'il meurt, il est trop tard. La maladie est déjà en train de faire ses ravages. L'humanité tout entière menace de s'éteindre. Ça, c'est ce que Plague Inc. appelle une réussite. Le gagnant, c'est celui qui crée le virus le plus dangereux, qui mute et se propage le plus rapidement possible et qui laisse la médecine totalement impuissante. Et comme récompense, il récolte des points à ADN à foison. Plague Inc. inverse les valeurs et ça donne des tweets qui sont très bizarres comme par exemple « Victoire, mon virus Ebola a tué tous les habitants de la Terre en 656 jours ». Le concepteur, un jeune britannique de la société Endemic Creations, assure qu'il n'a fait que combler un vide dans le marché et que son jeu n'a rien de machiavélique. Avec 1 million de téléchargements en seulement 2 semaines, début novembre, l'application est en effet en passe de battre des records. Il est vrai que Plague Inc. est loin d'être le premier jeu à récompenser le meurtre. Chaque joueur peut donner le nom qu'il veut à son virus fait maison et de plus en plus décide de l'appeler Ebola. Mais le succès de ce jeu en pleine épidémie meurtrière, 5000 personnes en sont mortes en Afrique de l'Ouest, rencontre un écho dérangeant. Alors son concepteur s'est senti un peu piteux, il s'est défendu en disant que le succès de son jeu ne l'a pas rendu riche, mais il a quand même décidé de faire un petit geste. Désormais, quand quelqu'un veut télécharger Plague Inc., la page d'accueil affiche une invitation à se rendre sur le site d'associations qui combattent Ebola pour que l'acheteur puisse faire une donation, histoire de se payer une bonne conscience.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission Accent d'Europe et sur Facebook. Demain, reportage sur la contestation de la réforme de la législation sur le travail en Italie. En attendant, dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.